BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Benjamin Morel, donc docteur en sciences politiques, un normatif et maître de conférence à Paris 2. Vous voyez, toutes mes fiches sont à jour. Benjamin Morel, beaucoup de questions à voir avec vous, évidemment, sur les retraites, sur Macron qui essaye de relancer un peu sa majorité, en tous les cas, de faire de la câlinothérapie, puisque c'est le mot un peu en vogue en ce moment. Un mot quand même, alors là, on est loin de la câlinothérapie, sur BlackRock, qui a vu son siège saccagé par une centaine de militants écologistes. Il y a la CFDT, c'était il y a plusieurs jours aussi. La question, c'est qu'on voit que les grèves, ça ne rapporte rien. Donc, il y a eu des incivilités. Et puis maintenant, on voit qu'il y a une violence quand même très ciblée avec des agressions. Est-ce qu'on est passé dans une autre phase de notre démocratie ?
Si vous voulez, il y a deux phénomènes qu'il faut analyser par rapport à ça. En effet, aujourd'hui, il y a une accoutumance de la société à la violence, qui n'est pas si nouvelle que ça, si vous voulez. On a des périodes dans l'histoire où la société s'acclimate plus à la violence et où ce type de violence est plus reconnu avec un possible effet d'engrenage. Je vous renvoie notamment, toute proportion gardée, aux analyses qui ont été faites sur les années 20 en Allemagne. Cette accoutumance de la société à la violence qui ensuite permet à la société d'en accepter de plus grande. Donc là, si vous voulez, on est dans une glissade depuis plusieurs années avec une partie de la société qui considère que dès lors que la violence paye, la violence est légitime. À côté de ça, vous avez un mouvement...
Elle paye, pardonnez-moi, médiatiquement.
Elle paye médiatiquement, la preuve, oui. Mais on a, si vous voulez, le grand précédent, c'est évidemment le précédent Gilets jaunes, avec du coup des manifestations violentes et l'idée qui s'est répandue dans l'opinion qu'Emmanuel Macron aurait cédé à ces violences-là. Et là, on a quelque chose qui s'est incrusté dans la société qui peut être délétère. Et ensuite, on a, on va dire, la singularité d'un mouvement. D'habitude, le type de grève dont on parle, elles arrivent beaucoup plus tard dans le processus législatif. Elles arrivent quelques semaines avant le vote de la loi. Et donc, la grève, si vous voulez, c'est un outil efficace, mais c'est un outil de sprint. C'est pas un outil de marathon. Vous pouvez pas tenir une grève sur 6 mois, sur 1 an. Donc, à partir de là, pour les syndicats, il est nécessaire de renouveler leurs actions, d'où des actions plus symboliques, mais également d'où des actions qui induisent parfois de flirter avec la limite de la légalité et avec une radicalisation de certains petits groupes, des petits groupes de gilets jaunes, des petits groupes de syndicalistes qui n'ont rien à voir avec les consignes des centrales, des petits groupes écologistes.
D'accord, Benjamin Morel, mais en même temps, moi, il y a quand même une chose, c'est que on voit bien que le gouvernement n'a reculé sur rien, sur aucune de ces, que ça soit sur l'assurance, sur aucune de ces réformes. Ok. Donc maintenant, on voit bien, ils le disent tous, les grévistes. Ça a été pour les grévistes pour contre le changement de statut de la SNCF, là sur la réforme des retraites. Elle avance la retraite des retraites. Et donc, aujourd'hui, c'est le seul moyen de se faire entendre.
Si vous voulez, c'est un peu à la fois la force et en même temps la faiblesse de la Ve République.
Exactement.
La Ve République,
voilà.
Quand vous avez une majorité, vous pouvez faire passer votre texte. La question, c'est combien de plumes vous allez perdre électoralement en faisant perdre votre texte et quelle frustration cela va-t-il engendrer, si vous voulez. On parle des réformes récentes, mais en fait, depuis la réforme du CPE, depuis la réforme de Villepin sur le contrat première embauche, aucun gouvernement n'a réellement cédé partiellement ou totalement à une grève dans la rue ou à des manifestations massives. Donc évidemment, ce type de moyens d'action et ceux qui les portent, c'est-à-dire les syndicats, ne sont plus vus comme des relais, on va dire, légitimes par ceux qu'ils considèrent comme étant ceux à représenter. Donc à partir de là, ceux qui veulent entrer dans la contestation sociale trouvent d'autres méthodes d'accès. Et vous avez les gilets jaunes, et peuvent en effet s'acclimater à des actions plus symboliques, plus violentes, qui peuvent être celles de petits groupuscules extrêmement minoritaires. Mais dès lors qu'ils ont une couverture médiatique et un soutien relatif d'une partie de l'opinion, arrivent à marquer le paysage.
Il y a Notre-Dame des Landes qui me porte la contradiction. Là, en l'occurrence, le gouvernement a reculé malgré un référendum.
Alors là, on a en effet une action qui est particulière, si vous voulez, sur Notre-Dame-des-Landes. On a quand même quelque chose de beaucoup plus localisé qui n'est pas du domaine législatif. Et là, on a, si vous voulez, un cas à part tout de même.
Oui, enfin, même sorte de violence qu'on a retrouvée hier chez BlackRock, en l'occurrence.
Oui, mais encore une fois, avec un enjeu très local.
Oui.
Voilà.
Oui. Donc. Oui, mais il y avait des gens qui venaient de. C'était pas les zadistes locaux, ils venaient de partout.
Oui, bien sûr.
Partout en
mais
Europe.
Si vous voulez, l'enjeu restait local et on n'est pas sur les grandes contestations portées sur des grandes réformes par les acteurs traditionnels que sont les syndicats.
Emmanuel Macron, ce soir à l'Élysée, câlinothérapie, on en disait un mot, il va recevoir donc ses députés, les députés de La République En Marche, mais aussi ceux qui sont sortis ou qui ont été exclus. Je crois même que Cédric Villani était convié. Il a fait dire qu'il avait une réunion publique. Qu'est-ce qu'il cherche Emmanuel Macron à expliquer après son geste, après ses mots, leur réclamant un peu plus d'humanité. On sait, une fois qu'il y avait ce faux débat à l'Assemblée nationale, sur le congé parental pour le deuil d'un enfant.
Mais si vous voulez, il cherche à conforter et à raffermir sa majorité. Il faut bien comprendre aujourd'hui quelles sont les deux grandes faiblesses de cette majorité parlementaire. D'abord, elle a été élue au centre-gauche. La plupart des députés qui siègent ont plutôt une appartenance politique, idéologique, une sensibilité de centre-gauche. Or aujourd'hui, l'électorat de La République En Marche et la politique à laquelle s'adresse en particulier cette politique par rapport à cet électorat se situe plutôt au centre droit, dans un champ plus orléaniste. Donc il faut arriver à faire accepter ce mouvement à une majorité parlementaire qui, sur tout un tas de sujets, les libertés publiques, l'immigration, a pu renacler. Et ensuite, vous avez également beaucoup de députés qui ne sont pas des professionnels de la politique. C'est quoi devenir un professionnel de la politique? Eh bien, c'est apprendre à avaler des couleurs, à des couleuvres. Vous rentrez dans un mouvement de jeunesse, vous rentrez ensuite en politique au niveau local, de fil en aiguille, vous faites vos armes, vous arrivez député, vous devez tout au parti, vous devez toute votre carrière au parti, et vous savez très bien que si le parti ne vous soutient pas, ne vous investit pas, et bien à ce moment-là, votre carrière se termine. Quand vous êtes en politique depuis 2 ans, vous devez à la fois tout à Emmanuel Macron, parce que c'est grâce à lui que vous avez été élu, vous n'aviez pas de réseaux locaux, mais en même temps, et bien vous ne lui devez que 2 ans de votre vie, et si demain vous voulez fronder, eh bien c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup moins coûteux.
Oui, il y a une mémoire courte. Est-ce que vous croyez, on peut le croire lorsqu'on en voit quand même beaucoup défiler ici qui ont souvent les mêmes éléments de langage, et il y a un député justement qui a décidé de quitter le groupe La République En Marche qui disait, mais en fait ce groupe à l'Assemblée Nationale, il est dirigé par une vingtaine de personnes qui ne sont pas élues et qui nous fournissent les éléments de langage et qui nous disent c'est ça ou c'est rien. Est-ce que ça vous paraît plausible, et surtout, est-ce que quelque part c'est pas un peu logique lorsque vous avez des novices en politique?
Si vous voulez, quand vous prenez les études sur les groupes parlementaires et sur les députés, depuis toujours, vous avez un endroit où on s'amuse, c'est l'opposition. Vous avez un endroit où on s'ennuie et où on se sent frustré, c'est la majorité. Donc dès le moment où vous êtes dans la majorité, où en plus vous êtes un novice, évidemment que l'on vous briefe, que l'on essaye de vous tenir et que l'on essaye de faire, eh bien, que ça roule. Parce que si jamais la majorité cède, le symbole est désastreux. Et à ce moment-là, on l'a vu avec les frondeurs. Mais là, si vous voulez, en plus, vous n'avez pas cet arrière-fond politique de partisane que j'évoquais tout à l'heure. Donc évidemment, si vous voulez, c'est une bombe à retardement. Il faut tenir la chose. À partir de là, si vous voulez, l'échec de La République En Marche à ce stade, c'est de ne pas avoir réussi à structurer un groupe parlementaire en dehors du parti et en dehors du gouvernement. D'habitude, le groupe parlementaire arrive tout de même à s'entendre, arrive à discuter en son sein et arrive non pas à être un contre-pouvoir au gouvernement, mais un interlocuteur pour le gouvernement. Celui qui jouait très très bien cette partition, c'était Jean-François Copé face à Nicolas Sarkozy. Et là, en effet, vous avez
une force de proposition, mais en même temps, force qui existait.
Force qui existait.
Par elle-même.
Voilà. Et quand vous avez un texte qui arrive d'un ministère, qui est déjà tout préemballé par l'administration, eh bien, vous pouvez avoir une majorité parlementaire qui dit « ça je prends pas, ça on négocie ». Et ça, aujourd'hui, à La République En Marche, comme il n'y a pas de groupe qui tienne réellement et qui se soit bien structuré, c'est difficile, donc ça engendre des frustrations.
Et c'est tout, là on est complètement au cœur de l'actualité, parce que, bon, avec il reste plus de 14 000 amendements à éplucher d'ici la fin de la semaine pour la Commission spéciale des retraites. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est un truc un peu inédit, mais c'est depuis la réforme constitutionnelle de 2008, ben lundi, c'est le texte initial proposé par le gouvernement, sans aucun amendement, qui va servir de base de discussion.
C'est ça. Donc là, on est, si vous voulez, un peu dans la cuisine juridique. En effet, avant, on discutait quoi qu'il arrive sur le texte du gouvernement. Donc là, on peut penser que les amendements de la majorité seront un peu bridés au stade de la commission. Il ne faut pas oublier que les amendements qui sont adoptés généralement ont été négociés en sous-main avant avec le gouvernement. Ouais. Donc si vous voulez, sur la capacité de la majorité à impacter la réforme, ça ne change pas réellement grand-chose. Après, sur cette obstruction parlementaire, si vous voulez, elle n'est pas non plus exceptionnelle. On a eu des centaines de milliers d'amendements au début des années 2000. L'obstruction était quelque chose qui était rentré dans les mœurs jusque dans les années 2008, jusque justement cette fameuse révision constitutionnelle. Aujourd'hui, très clairement, à travers la révision constitutionnelle de 2008, à travers le temps législatif programmé qui a été introduit en 2009, à travers les différentes réformes du règlement, on a très clairement les outils pour gérer ces phénomènes d'obstruction. Évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais le débat parlementaire parlementaire n'est pas totalement annihilée. Le débat parlementaire et l'examen parlementaire aura lieu. 20 000 amendements, encore une fois, c'est une obstruction, mais ça n'est pas une obstruction massive si on la compare avec ce qui s'est passé il y a quelques années.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir? Et je recevais Laurent Berger hier matin. Il demandait qu'on puisse discuter suffisamment le texte et qu'il n'y ait pas un agenda. Parce que l'agenda, il est extrêmement serré puisque normalement, la première lecture doit être terminée avant les élections municipales.
Bah, si vous voulez, si jamais il doit y avoir une vraie discussion, ça implique deux choses. Ça implique d'abord de décorseter l'agenda. Parce qu'à ce moment-là, vous mettez dans les mains de l'opposition, qui évidemment a envie que vous gardiez le corset et que vous donniez de vous-même une image caricaturale. Et deuxièmement, ça implique, de la part des députés de la majorité, également d'accepter l'idée que l'obstruction existe et que c'est un jeu. Vous avez quelques extraits au début des années 2000, en 2003 notamment, où vous avez justement un jeu d'obstruction entre la droite et la gauche, où les députés de gauche arrivent avec des maillots de rugby, où les députés de droite arrivent avec des tortues pour expliquer que c'est pas drôle et qu'on perd du temps. Mais en fait, tout le monde comprend le jeu symbolique de l'obstruction. Les choses se passent bien parce qu'il n'y a pas d'énervement. Là, très clairement, si jamais vous avez une majorité qui s'énerve et une opposition qui va dans la surenchère, eh bien on va à la crise et ça nuit évidemment à toute possibilité de débattre.
Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup de votre éclairage. Benjamin Morel, donc prof à l'université de Paris 2. Dans un instant, on parlait d'une crise de la majorité. Il y a une crise bien plus grave en Allemagne, avec des conséquences peut-être importantes pour la France, le couple franco-allemand. On en parle avec Kirine Montbrial, le président et fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'Arrache avec Thierry Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, donc président fondateur de l'Institut français des relations internationales. Là aussi, on parle de crise, peut-être en France, enfin en tous les cas, c'est difficile, le climat est tendu. Là, en Allemagne, on est vraiment dans une crise politique avec cet accord entre l'extrême droite et puis la CDU, lors d'une élection en Thuringe qui, du coup, a entraîné en chaîne une grande crise au niveau national et la démission de AKK qui devait succéder Angela Merkel. Très embêtant, inquiétant.
C'est grave, et même très grave. Alors, il y a un côté qui ressemble un peu à la situation française qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire à l'effondrement de la politique traditionnelle, la dispersion des partis, la CDU qui est de plus en plus éclatée, le SPD aussi, donc la montée de nouveaux partis, les Verts, le Linke, etc., et l'AFD. Alors, ça, déjà, c'est inquiétant parce que ça veut dire que tout le système sur lequel la politique allemande est bâtie depuis l'après-guerre est en train de vaciller. Mais ce qui est très grave, effectivement, c'est qu'une partie de la CDU, donc du centre droit, est tentée par l'extrême droite. Et c'est ce qu'on a vu en Thuringe. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est de se rappeler que la Thuringe, c'est là qu'est monté le nazisme. Les nazis ont fait leur entrée au pouvoir, n'est-ce pas? Le premier gouvernement régional où les nazis sont rentrés, c'était en Thuringe.
Oui, donc, alors, est-ce que ça veut dire... Enfin, il y a cet élément-là qui est important. Est-ce que ça veut dire aussi que AKK, Annette Kramp-Karrenbauer, elle ne s'est jamais imposée? On voit ça, bien.
C'est tout à fait clair.
Oui,
voilà. C'est tout à fait clair.
Donc, il n'y a pas que, quoi.
Non. Alors, c'est tout à fait clair. Néanmoins, il n'est pas évident, compte tenu de l'état de division de la CDU, il n'est pas du tout évident que le successeur... arrivera à ressouder les morceaux. Ce n'est pas clair du tout.
Est-ce que vous pensez, Thierry Montbrial, est-ce que vous pensez que Angela Merkel, elle va pouvoir terminer son mandat?
Ce n'est pas sûr. Je pense que, comme beaucoup de gens, je pense qu'elle a peut-être raté sa sortie. Elle aurait peut-être mieux fait d'arrêter avant, mais en effet...
Oui, mais peut-être qu'elle avait déjà compris qu'elle n'avait pas... Il y avait un problème de succession.
Oui, mais il y a un problème d'agonie, surtout. Et la difficulté... c'est que si elle est intervenue finalement, parce que AKK n'y parvenait pas, si elle est intervenue très, très fortement pour que le Premier ministre Thuringe démissionne, c'est parce que le SPD menaçait de sortir de la coalition. Donc de nouveaux incidents de ce genre peuvent se reproduire.
Il y a quatre candidats potentiels. On les connaît peu en France, sur la scène européenne, même européenne, ils ne sont pas très connus. Ça veut dire qu'il y a un vieillissement de la classe politique allemande. Et qu'est-ce qui se passe?
Je ne crois pas que ce soit propre à la classe politique allemande. Je crois que vous avez partout, en réalité, sous des formes diverses, ce même phénomène. C'est l'effondrement des politiques classiques. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec la France. C'est différent, mais les formes sont différentes, mais je crois que c'est tout de même le même phénomène. Ouais. Quant à AKK elle-même, elle était tellement inconnue que même les Allemands ouais. n'arrivaient pas à prononcer son ouais. nom. Ouais. C'est-à-dire Annegret Kramp. Karen Bauer.
Oui, il faut dire qu'il est compliqué à prononcer. C'est
absolument,
pour ça que
c'est un bon exercice.
Oui, c'est comme un peu comme, on y reviendra, le candidat démocrate qui a emporté la primaire de l'Iowa aux États-Unis, oui, Pete Buttigieg. Oui. Voilà, donc c'est, ça, c'est encore autre chose. AKK, on l'avait vu dans le cadre des universités d'Aix-en-Provence, du Cercle des économistes, elle avait un côté quand même très institutrice. Donc c'est oui, sûr oui, qu'on ne la voyait ça, pas oui, forcément oui. à la tête d'un État, oui. mais après tout, tout le monde peut progresser.
Remarquez, je me souviens. Très bien que quand Angela Merkel a fait ses débuts visibles, on disait oui. à peu près la même chose.
Oui, vous avez raison. Ursula von der Leyen, qui a donc été donc la nouvelle présidente de la Commission européenne, qui réussit plutôt ses premiers pas, hein, en tous les cas en tant que présidente, elle était ministre de la Défense. On en avait parlé comme éventuellement successeur d'Angela Merkel. Et en fait, à la Défense, elle n'était pas très appréciée de l'opinion publique. Mais est-ce qu'elle a une chance? Est-ce qu'elle pourrait revenir? Ou comment? Qu'est-ce que vous voyez?
Pas dans l'immédiat. Je crois qu'en effet, elle n'était pas très appréciée comme ministre de la Défense et elle est considérée d'ailleurs comme ayant plutôt échoué à ce poste. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est beaucoup mieux à sa place, en fait, à la présidence de la Commission. Mmh. Et je pense que c'était un bon choix, compte tenu de la situation à l'époque. Rappelez-vous, beaucoup de gens pensaient que la Commission n'allait pas arriver à se faire, en tout cas d'une manière cohérente. Donc je pense qu'elle est plus bien à ce poste et je n'ai pas du tout le sentiment qu'il soit question qu'elle revienne dans la politique intérieure rapidement.
Cette crise politique en Allemagne, cette crise... Enfin, c'est un peu excessif en France. Enfin, pour l'instant, en tous les cas, on voit que la situation est difficile, qui m'a tendu plutôt. Je le disais, est-ce que pour le coup, franco-allemand, ce n'est pas une bonne nouvelle, au moment où l'Europe a besoin de se relancer?
Alors, là, vous avez tout à fait raison. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une crise politique, d'ailleurs, qui est un petit peu partout. Mais je crois que l'Allemagne est paralysée, en tout cas d'ici les prochaines élections, qu'elles aient lieu à leur terme normal ou avant. Et on peut aisément imaginer des combinaisons entre les Linke, les Verts, par exemple, des combinaisons de ce genre, où les intérêts, par exemple, l'intérêt que nous portons à la défense, ne seraient complètement mis à l'écart en Allemagne, sans parler du mix énergétique et des grandes décisions de ce genre. Donc, il y a de quoi être inquiet. Et c'est le grand défi post-Brexit, parce que si ce qui reste de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne continentale, n'est pas capable de faire ses réformes et de s'affirmer, d'affirmer une volonté de construction d'une unité politique, là, je crois qu'on sera mal.
Tiens, justement, juste en fin de matinée, il y a peu de temps, Michel Barnier, donc il est négociateur pour l'Union européenne, a mis Londres en garde, je cite, contre toute illusion sur les services financiers. Il a dit qu'il était impossible d'avoir, il ne doit pas avoir d'illusion sur cette question, il n'y aura pas d'équivalence générale, globale ou permanente sur les services financiers. Ça va être un point très fort, un point clé, évidemment. Ça se durcit, la négociation.
Oui, c'est d'ailleurs tout à fait normal, mais je crois qu'il faut saluer Michel Barnier, qui a fait un travail absolument extraordinaire, déjà, pour aboutir l'aboutissement au Brexit. Et je crois qu'il connaît vraiment parfaitement le dossier et qu'il va défendre les intérêts européens aussi fermement que possible. Mmh. La seule limite, c'est qu'il faut qu'il soit soutenu quand même par les Européens en question. Et c'est là que l'on peut imaginer des difficultés.
Un point, puisque vous parliez de défense. Le président Macron a prononcé un discours très important devant l'école de guerre sur la dissuasion nucléaire française, en disant qu'il était prêt à la mettre à la disposition des différents partenaires de l'Union européenne. C'est-à-dire que si un des pays de l'Union européenne est attaqué, à ce moment-là, la dissuasion nucléaire française pourrait être invoquée ou demandée. Ça, c'est un point très important. Il a fait ce discours, qui est un peu un changement stratégique très important, sans même vraiment prévenir en fait ses partenaires européens. Comment vous analysez? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le pourquoi de ce discours?
Écoutez, tout d'abord, il y a des précédents. En 1976, cela fait un certain temps, Giscard étant président de la République, à l'époque, je dirigeais moi-même ce qu'on appelle le Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères, et ce thème était discuté. C'est-à-dire le thème de ce qu'on appelait la dissuasion élargie. Mais ça n'était pas très crédible, parce que déjà, la décision d'un président français d'utiliser l'arme nucléaire pour les intérêts dits vitaux de la France, ce serait déjà pas une décision facile à prendre. D'ailleurs, il y a des témoignages sur Giscard par la suite, dans les exercices, qui ont montré qu'il ne prenait pas cette décision, dans un exercice virtuel, c'est très difficile à prendre. Alors, mettre en œuvre l'arme nucléaire, si j'ose dire, à la demande d'un tiers, je pense que personne ne prend ça sérieusement.
Pourquoi ce discours, quand même ?
Alors, je pense que ce discours, il est plutôt une incitation à ce qu'on parle de ces sujets. Je crois que ce que Macron essaye de faire, et à juste titre, c'est d'intéresser, de secouer un peu nos partenaires européens, y compris allemands, justement, pour qu'on aborde sérieusement ces questions de défense. Et si vous me permettez de rajouter un mot, quand les Américains, notre cher Trump, demande aux Européens de dépenser davantage pour leur défense, ce qu'il veut dire...
Au niveau de l'OTAN, oui.
C'est, non, ce qu'il veut dire, c'est dépenser davantage pour acheter des armements allemands, des armements américains, pardon. Car c'est ça, il y a une ambiguïté fondamentale sur ces questions. Alors, le président Macron, je crois, a entièrement raison d'essayer d'attirer l'attention. Et parler de nucléaire, c'est probablement un angle aussi qui peut se prêter à une discussion. Mais il ne faut pas l'aborder avec naïveté non plus.
Oui. D'accord, donc là, c'est un commentaire en demi-teinte que vous faites. Les États-Unis. Donc demain, c'est l'élection, enfin ce soir, c'est l'élection New Hampshire, la deuxième primaire du côté démocrate, bien sûr, avec cette surprise de l'Iowa, enfin deux surprises, mauvaise surprise, c'est ce bug absolument gigantesque sur les résultats de l'élection, et puis la surprise, la divine surprise pour lui, en tous les cas, c'est le succès de ce maire de South Bend, qui est donc Peter Buttigieg. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe et qu'est-ce que vous attendez de New Hampshire et pourquoi Michael Bloomberg ne concourt toujours pas à cette primaire démocrate ?
Bon.
Trois questions.
Trois
minutes.
Certes, déjà 15 secondes de passé. Alors, le premier aspect, c'est que l'Amérique, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, est profondément divisée. Et c'est quelque chose qui est sans précédent. Je dois dire que cette division à l'intérieur des États-Unis, moi je n'ai jamais vu ça et je crois que historiquement il n'y a aucun précédent. Et vous avez deux extrémistes, si j'ose dire, qui se profilent. Il y a Trump qui est un extrémiste en son genre. Et vous avez Bernie Sanders, qui a 78 ans et le chouchou des jeunes, et qui est un socialiste à la française. C'est comme d'ailleurs, on en trouve plus beaucoup. Ouais. Et presque communiste.
C'est quelque chose
d'incroyable.
Il y a une radicalisation du Parti démocrate.
Et c'est tout à fait. Alors, l'émergence du jeune PT, on va voir ce que ça donne, mais que tout ça participe aussi à ce clivage profond. Donc, dans tous les pays démocratiques, et peut-être pas seulement, peut-être que ça a aussi à voir avec les réseaux sociaux, etc., vous avez ces clivages. Voilà. Donc, ça veut dire que personne ne sait quelle sera l'hypothèse la plus vraisemblable aujourd'hui. Naturellement, c'est que Trump soit réélu. Mais il y aura des dégâts, si vous voulez. C'est ce clivage qui est extrêmement profond. Alors, la deuxième question, c'était
L'émergence, enfin, le résultat des courses, c'est Peter Buttigieg donc, qui est émergé.
Oui,
Bernie Sanders, loin derrière.
Je crois que Biden...
Et Joe Biden, encore plus loin derrière.
Biden est très loin derrière, parce qu'il est, il est vraiment le candidat vieillissant d'un système dépassé.
Et de Washington.
Et en plus, dans le fameux scandale ukrainien, je crois que c'est peut-être lui qui perd le plus, parce qu'après tout, son fils n'a pas eu un très beau rôle dans toute cette affaire. Voilà. Alors, vous posez la question pourquoi Bloomberg attend ? Parce qu'aux États-Unis, on peut rentrer assez tard dans la course aux investitures et ça coûte très cher. Et Bloomberg a dit d'ailleurs qu'il était prêt à mettre une partie considérable de sa fortune et il en a beaucoup. Simplement, il a probablement jugé de son intérêt de concentrer sa campagne sur un laps de temps limité. J'ajouterais d'ailleurs qu'il n'est pas très jeune, lui non plus.
Oui, c'est un peu étonnant. Toute dernière question, là on rebascule de l'autre côté de la Chine. Je recevais David Bavrez qui habite là-bas, qui est un investisseur, qui connaît bien le sujet. Il disait qu'en fait, il y a évidemment le coronavirus, on en parlera avec l'ancien ministre Douste Blasi, mais il y a, pour Xi Jinping, il joue très très gros en fait. Et ça le fragilise, lui, on a l'impression que c'était le nouveau Mao. Et là, ça le fragilise énormément.
Alors, en fait, la Chine est actuellement fragilisée par tout un ensemble d'événements. Il y a le ralentissement économique naturel avant le virus, il y a les attaques américaines, et maintenant la mauvaise gestion du coronavirus. Et là aussi, il y a les réseaux sociaux. Il faut voir que les réseaux sociaux, ça existe partout, et même en Chine, et malgré la surveillance, il y a effectivement un ébranlement. Alors, qu'est-ce qui va sortir de tout ça ? Je ne crois pas personnellement que le régime soit en danger. Je ne vois
fragilisé,
pas.
Fragilisé, non. D'accord. Quand même, avec l'histoire du docteur Li.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit le régime qui soit en danger. D'accord. Mais je pense qu'en effet, Xi Jinping peut être fragilisé. Peut-être qu'il va falloir qu'il reprenne une direction un petit peu plus collégiale. Mais si vous me permettez un dernier mot, je crois que si on prend l'ensemble des événements, ça va dans le sens d'une accélération de la politique chinoise pour devenir plus indépendante. C'est que ce que tout cela a révélé, c'était qu'elle était devenue trop dépendante, en particulier des États-Unis, pour les problèmes de sanctions, etc. Et je crois que c'est la plus grande leçon.
Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous. Thierry de Montbrial, donc, le président fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et puis, dans un instant, justement, on reviendra sur le coronavirus. Épidémie, pandémie, gestion de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On en parle avec l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Aujourd'hui, il est président de Unit Life. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes maintenant, vous dirigez un fonds que vous avez créé sous l'égide de l'ONU, après United, hein, on s'en souvient. Là, c'est Unit Life. Vous nous direz en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous cherchez à faire. C'est un fonds qui s'appuie sur l'high-tech. C'est pour ça que vous êtes hébergé à la station F. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ce coronavirus, de cette épidémie ou la pandémie. Vous avez tenu des propos assez durs sur la gestion faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit tout à l'heure c'est quand même très très grave ce qui se passe. Pourquoi ces propos très durs? Et d'abord, est-ce qu'on est face à une épidémie ou une pandémie?
Alors, d'abord, j'ai eu pas des propos durs, j'ai dit simplement au début qu'il fallait aller reconnaître très rapidement.
Il y a un problème avec la manière dont c'est géré.
C'est ça, oui, c'est ça. Il y a un problème avec la manière dont c'est géré parce que il n'y avait pas eu de reconnaissance au début du fait que ce soit international. Oui, c'est une épidémie à retombée internationale. Donc maintenant, c'est fait, c'est dit. La question, c'est que, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On sait qu'il y a 1000 morts, on sait qu'il y a entre 45 000 et 50 000 cas contaminés, on sait qu'une personne qui est contaminée va le transmettre à 2,5 personnes, entre 2 et 3 personnes, et on sait que le taux de mortalité est entre 1 et 2,4. Bon.
Ça, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
Oui, c'est...
Enfin, je veux dire, pardonnez-moi d'être un peu dans le quantitatif, bien sûr.
Ça dépend de l'importance de l'épidémie. Ouais. Voilà.
Non, mais par rapport à SRAS, c'était quoi le taux de mortalité?
Alors, mortalité de SRAS était un peu plus élevé.
Oui, c'est ça.
Mais pas beaucoup plus élevé. Mais le taux de contagion, par exemple, de la rougeole est de 16. Là, vous voyez, nous sommes à 2,5. Maintenant, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que les mesures prises par les Chinois sont efficaces ou ne le sont pas? Si la réponse est oui, elles sont efficaces, personnellement, je le crois. Et je pense que c'est une chance que la Chine réagisse comme ça, même si elle a eu un retard à l'allumage de 15 jours au départ, entre le 15 décembre et le début janvier. Là, aujourd'hui, est-ce que c'est efficace? Si c'est efficace, alors il faut immédiatement que les pays qui sont à côté de la Chine puissent également mettre en quarantaine et confiner des millions de personnes.
Oui, mais est-ce que c'est pas, justement, vous dites efficace, ça dépend ce que vous attendez par efficace, et puis on voit bien qu'il y a eu des contaminations en Europe.
Oui, mais d'abord, cette question est importante. Donc, en Thaïlande, par exemple, ça y est, ils ont pris des décisions de mise en quarantaine. En Indonésie, rien. Donc ça, c'est la première question. Et donc, l'OMS doit en effet se poser la question maintenant très vite de savoir si oui ou non il faut étendre ce confinement à d'autres pays. C'est une première question. Deuxièmement, il y a des questions qui se posent. La première, c'est que...
Pardonnez-moi, vous connaissez ça par cœur. Pourquoi la décision n'a pas encore été prise de la part de l'OMS?
Ben, je ne sais pas.
Ah oui, d'accord.
C'est une question que je pose. Oui. Et je profite de cette émission et merci de m'avoir invité pour le dire. Oui. Nous sommes un certain nombre à nous poser cette question. Donc la deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer au fond ensuite, maintenant que les Chinois vont rentrer de vacances, du nouvel an chinois. Parce que il n'est pas impossible... comme le dit Gabriel Leung, qui est un grand professeur d'épidémiologie de Hong Kong et qui joue un rôle très important, d'ailleurs maintenant comme conseiller de l'OMS depuis quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une augmentation exponentielle de l'épidémie dans des villes chinoises de plus de 20 millions d'habitants? Je rappelle que Pékin, c'est 24 millions d'habitants, mais que le jour où l'épidémie a commencé, il y avait 8 millions de Pékinois qui étaient sortis.
Donc, oui, ils sont à allés... cause du nouvel an chinois.
Maintenant ils rentrent. Mais est-ce que certains sont allés à Hubei? Est-ce que certains sont allés à Wuhan? Est-ce que quelqu'un sont allés à Hangzhou? Donc voilà, s'ils reviennent et s'il y a un certain nombre de personnes qui ont été contaminées, là il peut y avoir, avec les chiffres que je vous ai donnés au début, vraiment une augmentation exponentielle. Deuxièmement, il y a en effet des villes dans le monde qui pourraient avoir une épidémie aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été transportés dans leur ville à partir de la Chine et qui n'étaient pas symptomatiques. Donc tout ça, c'est les vraies questions qui sont devant nous. Il ne s'agit pas de paniquer du tout, il s'agit simplement de travailler. Le directeur général de l'OMS, qui là a eu tout à fait des propos tout à fait remarquables en disant « c'est une partie de l'iceberg ». Qu'est-ce que c'est l'iceberg? C'est les gens qui étaient à Wuhan, les gens qui étaient en Chine, et qui ont contaminé d'autres personnes.
Mais hier, il a fait une déclaration en disant il y a des personnes qui ont été contaminées et qui n'étaient pas en contact avec quelqu'un qui est arrivé de Chine. Vous voyez,
c'est ça l'histoire.
De près ou de loin même.
C'est la nouvelle histoire de cette épidémie. Ouais. C'est justement, en dehors de cet iceberg-là, le contact initial, comme on l'a eu en France, d'ailleurs, de manière... La gestion en France, d'ailleurs, est remarquable. Il faut quand même le reconnaître.
Et c'est pour en quoi?
Elle est remarquable parce que, moi j'ai été ministre de la Santé deux fois, donc je suis épidémiologiste de formation.
En plus, oui.
Et je dois reconnaître que, je reconnais républicainement que ce
soit... Vous étiez cardiologue ?
Oui, cardiologue et professeur de santé publique. Voilà, Jérôme, le grand patron de la direction générale de la Santé, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, font un sans-faute. Pourquoi? Parce qu'il y a un système d'État qui s'appelle Santé publique France, qui, depuis le SRAS, depuis 2002-2003, on sait ce qu'il faut faire. Donc, regardez ce qui s'est passé, par exemple, à Contamine-Montjoie. Il y a 5 personnes qui ont été contaminées. Elles ont été envoyées dans des hôpitaux de référence à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble. Ensuite, on s'est aperçu qu'elles avaient discuté avec 6 personnes de près. Celles-là aussi ont été hospitalisées, 5 adultes, un enfant. Cet enfant, on s'est rendu compte qu'il est allé deux fois dans deux établissements scolaires différents. On a immédiatement dépisté tous ces... Donc, je veux dire, il y a plus de 100 personnes qui ont été dépistées. Jusqu'à maintenant, elles sont négatives. Mais on sent que c'est extrêmement bien organisé.
Oui. Donc, pour l'instant, vous trouvez que la gestion en France, elle est totalement à la hauteur. Le rapatriement des Français, c'était une bonne idée. Sur le moment, ça a pu surprendre certains, mais c'était...
C'est la première fois de l'histoire du monde. Oui. On fait ça, d'ailleurs, de la France en particulier. On ramène des personnes, on les met en quarantaine, et tous les jours... on détecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que quelqu'un... Aujourd'hui, on voit qu'il y a des bateaux de croisière dans lesquels il y a 5, 10, 15, 70 personnes. Ce qu'il faut, c'est...
Il y a des Français, du reste, à bord.
Oui.
Et on peut penser qu'il y avait des Japonais, mais il y a des Français.
Ouais. Détecter tous les jours la personne. Et ensuite, le plus important de tout, c'est que s'il y a un contact, s'il y a quelqu'un qui devient positif, il faut remettre à zéro le compteur et re-attendre 14 jours.
Ouais. Donc, c'est comme un exercice... complexe. Maintenant, la question, c'est comment on enraye cette épidémie, pandémie. On peut parler de pandémie dès lors que
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première, de temps en temps, la nature quand même est reine. Hein. C'est donc le virus, ça fait partie de la nature, et que la première fois que l'espèce humaine est en contact avec un virus, eh bien, elle ne peut rien faire. Donc, si le virus est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux pour l'espèce humaine. S'il est moyennement dangereux ou pas dangereux, tant mieux. Donc aujourd'hui, là, on en est là devant un virus qui n'est pas extrêmement méchant, mais qui pourrait se propager très rapidement. Surtout si on s'aperçoit que les mesures prises par les Chinois ne sont pas efficaces, ce que je ne crois pas.
Ouais. Et c'est, il est de quel je ne sais pas comment dit-on, il vient d'où ce virus? Enfin, alors, on sait qu'il vient du marché de Wuhan.
Il vient d'animaux, on n'a pas encore compris de quel animal.
Évidemment, il attaque les poumons, il attaque
oui,
la...
c'est un virus exactement comme une grippe, c'est-à-dire qu'il attaque le système respiratoire. Donc, soit c'est une simple fièvre, soit c'est une fièvre avec un petit peu de tout, soit c'est carrément, quand il est vraiment extrêmement violent, un syndrome respiratoire aigu où il faut une réanimation respiratoire.
Qu'est-ce que vous pensez des propos qui ont été tenus par Donald Trump qui dit que de manière ça va s'arrêter parce que c'est un virus qui est mort avec la chaleur, qui se détruit.
Oui, alors je ne savais pas que Donald Trump était épidémiologiste.
Non, mais il y en a peut-être certains qui lui ont soufflé ça, j'en sais rien.
J'espère pour lui que quelqu'un lui a soufflé, mais c'est un non-sens.
C'est un non-sens. La chaleur n'a jamais détruit. Enfin, il faut une chaleur très très forte. Est-ce que juste dernière question là-dessus, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles épidémies, un peu justement dans cette planète qui se transforme
sous
le réchauffement climatique? Est-ce que ça peut entraîner l'apparition de nouveaux microbes?
Alors, je ne crois pas que ce soit dû au changement climatique. C'est que depuis que l'homme est l'homme, il y a des épidémies. Et c'est la première fois, évidemment, où nous avons une épidémie avec un système de millions et de millions de personnes qui sont dans le ciel avec des avions. Donc ça, c'est la première fois. Dernière grande épidémie extrêmement mortelle, c'était la grippe espagnole en 1919. On parle de entre 30 et 50 millions d'habitants, de personnes qui sont mortes sur la Terre. Mais il n'y avait pas d'avions. Donc imaginez qu'il y ait un virus aussi dangereux que ça. Ça peut être absolument dramatique, en effet, pour l'humanité. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que nous sommes en train, petit à petit, de nous préparer. Je trouve qu'en Chine, ils travaillent très bien, en dehors des 15 premiers jours qui ont été...
Oui, parce que le début a été très virulent, avec l'incarcération du fameux docteur Li.
Ça, c'est le système chinois. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais
c'est la même gestion, quoi.
La gestion, quand même, par la Chine, de dire, on confine 60 millions de personnes... Je voudrais savoir dans quel pays on peut faire ça. Ouais. C'est un sujet absolument incroyable. Alors, ils ont eu raison de le faire. La question, c'est que le système hospitalier est extrêmement centralisé. Regardez la première chose qu'a dit la ministre de la Santé en France. Surtout, n'allez pas à l'hôpital. Mais pourquoi elle a dit ça? Parce que si vous avez le virus et si vous allez à l'hôpital, vous contaminez tous les gens qui sont à l'hôpital. Donc, l'idée, c'est de confiner les gens dès le début. Or, les Chinois vont, dès qu'ils ont 37,3, quand on vous trouve dans la rue à 37,3 de température, on vous amène de gré ou de force à l'hôpital. Et c'est justement là qui est le problème de santé publique, c'est que si vous mettez tous les gens dans le même couloir à l'hôpital, même ceux qui n'ont pas été infectés s'infectent.
Oui, ça c'est clair. On dit quand même un mot de votre nouvelle expérience, nouvelle création, ça s'appelle le Unit Life, c'est un fonds donc, qui est...
C'est un fonds de l'ONU.
Oui.
Nous sommes arrivés à créer un fonds, donc c'est le deuxième fonds que j'aurais créé aux Nations Unies.
Oui, il y avait United,
qui est un grand succès aujourd'hui, hein, parce qu'United c'est...
On va rappeler, c'était donc la fameuse taxe qui a fait grincer pas mal de dents, hein, on s'en souvient même encore maintenant, hein, parce que
euro,
ça a augmenté.
Oui, un euro par billet d'avion, grâce au président Chirac, et j'ai fondé United, qui est un fonds des Nations Unies. Et aujourd'hui, on estime, toutes les publications internationales montrent qu'il y a 100 millions de personnes par an qui profitent des innovations d'United. Ouais. Donc voilà. Donc là, maintenant, on fait Unit Life.
Mais ça continue, United, même si...
Non, United, c'est un très grand succès qui continue.
Oui, c'est
absolument.
Ça. Ouais. Sans vous, mais qui continue.
Qui continue sans moi, absolument. Je l'ai présidé, je l'ai présidé pendant 10 ans. Mmh. Alors, Unit Life, c'est autre chose. C'est là, vraiment, je crois que c'est une des deux menaces existentielles de l'humanité. Mmh. Il y a le changement climatique... Et puis, il y a celle-là. C'est quoi? C'est le fait que les femmes les plus pauvres du monde, et qui sont enceintes, comme tous les gens très pauvres, ne mangent ni fruits, ni légumes, ni poissons, ni viande.
La malnutrition, conséquence sur les
enfants. Voilà, une malnutrition chronique. Ce n'est pas des gens qui ont faim. Ce n'est pas des gens qui meurent de faim. Des gens qui mangent de leur faim. Mais si vous ne mangez pas de légumes, de fruits et de protéines, votre enfant, lorsqu'il a 2 ans, a 30 10% de quotient intellectuel en moins. C'est-à-dire que le pire des scénaristes, le pire des scénarios, n'a jamais pu oser écrire que les pauvres, non seulement vivent comme des pauvres, mais en plus ont des enfants plus bêtes. Et ça, c'est effrayant parce que ça touche pratiquement maintenant 50% des gens qui sont en Inde et en Asie du Sud-Est, et 50% des gens qui sont en Afrique subsaharienne. Donc on n'a pas le droit de laisser faire ça. Donc j'ai voulu créer un fonds. Le secrétaire général des Nations Unies a accepté ce fonds. Je l'ai créé, il existe à New York. Et le secrétariat général sera à Paris. On a même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, placé à la station F.
Et comment il fonctionne par rapport à ce qui existe? Parce qu'il y a déjà tellement de choses, c'est ça le problème. Hein.
Justement, le drame, c'est qu'aucun fonds n'existe sur cette maladie. Pourquoi? Parce que cette maladie, personne ne la connaît. Les téléspectateurs qui nous écoutent ne connaissent pas cette maladie.
Elle paraît logique, c'est-à-dire qu'effectivement, la malnutrition, notamment des femmes enceintes, ça peut conduire effectivement à une succession ensuite de...
Oui, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas, c'est une maladie que l'on connaît depuis une dizaine d'années. Donc il y a 30% de connexion neuronale cérébrale en moins. Et évidemment, si vous êtes dans un pays très pauvre, si 50% des enfants ont 30% de QI en moins, comment voulez-vous que ce pays sorte de la pauvreté? Donc c'est un sujet non seulement médical, mais aussi éducatif. Vous pouvez mettre 1000 écoles, 10 000 écoles, 100 000 écoles. Si 50% des enfants ne comprennent pas ce que dit le professeur, ça ne sert à rien. Et derrière, c'est un plan économique et même géopolitique. Donc c'est des gros sujets extrêmement importants. Alors comment ça va marcher? Comment on va trouver de l'argent? Donc l'idée, c'était de demander à toutes... L'idée est de demander à toutes les grandes entreprises d'e-commerce, comme Alibaba, comme Trechant, comme Amazon, etc. On ne leur demande pas d'argent, on leur demande juste de proposer à leurs clients, dès l'instant où ils ont acheté quelque chose, 3 centimes, 4 centimes, en volontaire.
Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le genre de Nature et Découverte.
Non, mais c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Et les premiers pilotes qui sont faits, comme ceux dont vous parlez, montrent qu'il y a à peu près 30 ou 35% des gens qui disent oui. Et donc, ce qui est fort, c'est de créer, si vous voulez, une solidarité citoyenne, cette fois-ci. Ce n'est pas des gouvernements. Citoyenne mondiale, et en quelque sorte dire que l'électronique, le numérique, le web peut servir peut-être à des choses affreuses, c'est le dark web, mais aussi à des choses magnifiques comme ça.
Et que, parce que la question que souvent, et vous-même je crois que vous l'avez soulevée, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on donne déjà tellement, alors qu'en fait il y a des pans entiers de cette misère que personne n'arrive à atteindre. Comment vous expliquez ça? Il y a les scandales, on a vu ça encore récemment. Comment est-ce que vous qui avez été à l'ONU si longtemps?
Mais parce que
il
n'y a jamais eu autant d'injustice que maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui,
il n'y a jamais autant d'argent qui a été déversé.
Alors, il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été déversé avec une efficacité extraordinaire, puisque la mortalité infantile a diminué durant les 30 dernières années de 50%, et la mortalité maternelle a diminué de 50%. Donc, la plupart des gens croient que plus on donne, moins ça sert. Non, c'est le contraire. Nous avons prouvé que l'argent était efficace. Mais cette maladie, en particulier la malnutrition chronique, personne ne la connaît, donc personne ne s'en occupe. Et si personne ne s'en occupe, ça entraîne une pauvreté énorme. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de différence entre les riches qui sont extrêmement riches, et les pauvres qui sont restés pauvres.
Ah oui, le classement d'Oxfam qui montre que les 1% les plus riches détiennent autant que 60% de la population
mondiale. Évidemment, ça ne peut pas continuer.
Oui. Est-ce que je fais une petite incise, Philippe Douste-Blazy, est-ce que vous avez entendu parler de ces enfants fantômes? C'est un sujet absolument incroyable, on m'a juste alerté là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 milliard d'enfants au monde qui n'ont pas de papier d'identité. Donc ils sont fantômes, ils n'ont aucune reconnaissance civile. Et donc après, on peut imaginer, évidemment, donc ils sont reconnus nulle part, ils ont accès à rien. Et c'est un phénomène qui prend une ampleur sans précédent.
Absolument, c'est un sujet effrayant.
Les enfants fantômes.
Et d'ailleurs, je crois que là, il commence à y avoir des actions, en particulier de certains sénateurs français, qui commencent à s'intéresser beaucoup, en particulier en Afrique, à l'état civil. Parce que aujourd'hui, avec les moyens numériques que nous avons, il est possible quand même de tous les jours de savoir les enfants, leur nom, le père, la mère. Parce que sinon, ce sont des enfants, en effet, qui sont fantômes, qui n'existent pas.
L'Afrique, évidemment, il y a ça en Inde, et il y a ça beaucoup en Chine, les deuxièmes enfants qu'on a cachés pendant longtemps et qu'on continue du reste à cacher. Ça, c'est un point très important. Juste un mot peut-être pour conclure, à l'ancien ministre de la Santé. Climat social en France, difficile. Non, mais surtout On a l'impression que le système hospitalier français est complètement en train de se détruire de l'intérieur. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Ça, c'est un sujet qui est absolument majeur. Et je crois que le grand chantier qui est devant nous, c'est certainement le chantier de la santé publique et de l'hôpital public comme privé, d'ailleurs. Avec son financement, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, le respect des soignants. On ne peut pas continuer à ne pas respecter les soignants. C'est comme ça. Donc,
oui, mais comment on en est arrivé là? Vous avez été deux fois ministre de la Santé, c'est pour ça que je me permets
j'ai fait surtout
de
une réforme de l'assurance maladie en 2004, qui a sauvé pour un temps le système, avec le médecin traitant, avec la haute autorité de santé. Ça a permis 10-15 ans. Mais aujourd'hui, il faut réinjecter surtout beaucoup de respect vis-à-vis des soignants, certainement augmenter les salaires, mais surtout les équipements. Moi, à l'époque, j'étais interne des hôpitaux, chef de clinique ou professeur de médecine, tous ceux qui avaient passé l'internat et qui étaient heureux à l'hôpital voulaient rester professeurs. Aujourd'hui, la plupart des gens partent dans les cliniques privées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipements qui commencent à devenir supérieurs. Ouais. Ça, c'est un tournant majeur dans la vie politique française. Et donc, oui, la réforme de l'hôpital, c'est pas un mot comme ça. Il va falloir que ce soit extrêmement fort et aussi de trouver la question du financement, parce qu'on ne pourra pas continuer éternellement estimer que tout le monde doit payer de la même manière, de manière universelle. Il faut mettre ce chantier à l'ordre du jour dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup Philippe Douce de Blasi d'avoir été avec nous. Donc votre fonds Unit Life, et comme ça ceux que ça intéresse peuvent aller voir évidemment sur votre site internet. C'est la fin de leur H. Nous on se retrouve bien sûr demain matin, c'est Arnaud Montebourg que je recevrai à 8h15. Ensuite on se retrouve bien sûr dans leur H. Bonne journée.